Mais pour parvenir à négocier des objectifs concernant la diversité biologique, il faut alors prendre en considération les contraintes qui pèsent sur les gens du lieu, mais aussi prendre en considération leur savoir et leur savoir-faire. Une convergence est donc désormais possible, tout du moins souhaitée, et par certains milieux de la gestion, la gestion environnementale. Mais elle ne va pas de soi. J'ai participé à une enquête effectuée par le GIS Alpes du Nord sur un ensemble, il y en avait 25 ou 30, je ne sais pas, de négociations portant sur des mesures agri-environnementales ou sur la mise en place de documents d'objectifs Natura 2000, etc. Et nous avons bien saisi les difficultés de l'entreprise. Il s'avérait que chaque acteur social, en fonction de ses objectifs, de son expérience, de son savoir, pouvait prétendre se faire le porte-parole légitime des éléments de la diversité biologique qui faisaient l'enjeu de la négociation. Discuter des objectifs d'une action en faveur de la diversité biologique n'allait donc pas de soi. D'abord, il fallait abandonner des positions de principe. Mettre ses convictions en sourdine et accepter une attitude responsable. Il fallait sortir d'une éthique de conviction pour prendre une éthique de responsabilité. Il fallait parvenir à comprendre des représentations, des valeurs, des passions aussi parfois, qui vous sont étrangères. Et puis il faut apprendre à faire avec. Il faut savoir entrer en controverse, mais il faut aussi en sortir par des compromis et non par la victoire d'un point de vue sur tous les autres. C'est pas franchement dans les traditions françaises. Il faut enfin que chaque acteur qui a participé à la négociation puisse porter et défendre ses compromis dans son propre monde social. Le risque de se trouver alors isolé et contesté est loin d'être négligeable. Prendre en compte la diversité biologique n'impose pas seulement l'apprentissage de négociations entre environnementalistes, militants associatifs, agriculteurs, usagers, chasseurs, élus locaux, etc. Ça conduit aussi à une remise en cause des modèles sur lesquels tous ces acteurs raisonnaient jusqu'alors leur façon d'être et leur pratique. Les tensions sont alors vives entre ceux qui acceptent ce réexamen et ceux qui ne veulent pas le faire. Il m'est arrivé en particulier de constater que pour éviter d'être stigmatisés par leurs collègues, des alpagistes qui depuis plusieurs années entretiennent d'excellentes relations avec le parc de la Vanoise et négocient volontiers avec lui des mesures contractuelles en disent pique-pendre dans les réunions professionnelles. Une négociation d'autant plus difficile que les uns et les autres ne s'intéressent pas aux mêmes éléments de la diversité biologique. Les militants et ceux qui sont restés fidèles à l'ancienne conception de la protection de la nature, ont tendance, en fait, à protéger l'objet de leur désir. Les espèces et les milieux qu'ils estiment remarquables, parce qu'ils les ont remarqués, et qu'ils se passionnent pour eux. Ainsi que les ornithologues aimeraient que l'on se préoccupe principal de la vie faune, que les entomologistes passionnés des insectes xylophages voudraient que l'on maintienne plein d'arbres morts dans les forêts, ou que les frappés du gypaète barbu désireraient que l'on introduise partout où il peut vivre. C'est ainsi que certains ont jeté leur dévolu sur les tourbières, d'autres sur les pelouses calcicoles, d'autres sur les forêts abandonnées de longue date, etc. Moins préoccupés des espèces et des milieux remarquables, les gestionnaires de l'environnement sont néanmoins tenus d'appliquer la loi sur la protection des espèces. Et lorsqu'il s'agit de surveiller l'évolution des effectifs, malgré tout, ils ont tendance à s'intéresser beaucoup plus à la vulnérabilité qu'à la remarquabilité. Ce sont en fait les espèces et les milieux menacés dont ils se soucient le plus. Et bien sûr, ils doivent aussi tenir compte des aspirations des naturalistes dont ils ont le plus grand besoin et avec qui ils sont associés depuis longtemps. Les gens du lieu ne sont guère plus unis. Alors, nous avons fait une enquête sur une trentaine d'exploitations, je vais mettre ça pour l'illustrer un peu, et dans les Alpes du Nord avec le GIS. Et sur la façon dont les éleveurs perçoivent la biodiversité. En fait, on ne leur parlait pas de biodiversité tout de suite, on leur parlait de nature et d'éléments de nature. Sur la trentaine d'éleveurs étudiés, il n'y avait aucun pêcheur. Il s'avère que les pêcheurs sont souvent des salariés. Et un seul chasseur. Si l'on en juge par les critiques adressées par la majorité de ces éleveurs, y compris le chasseur d'ailleurs, à la chasse, qui s'avère incapable d'éviter que sangliers, cerfs et chevreuils pullulent, il y a fort à parier que les points de vue de ces ruraux sur la faune et la végétation divergent, et que les chasseurs soient aussi, eux, plus favorables à l'enfrichissement que les éleveurs qui le déploraient. L'enquête avait pour but de comprendre la façon dont les éleveurs perçoivent et utilisent leur biodiversité, ainsi que sur la façon dont ils perçoivent et apprécient la biodiversité des autres. Il s'est avéré que le terme même de biodiversité, ce que l'on pensait, ne fait pas partie, je dirais, du vocabulaire spontané de ces éleveurs. Il vient de leur encadrement technique et administratif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les faisait parler d'abord de nature, de plantes, d'animaux, de paysages, et ce n'était qu'à la fin de l'entretien qu'on introduisait le terme de biodiversité. Et dès que le terme était prononcé, le discours changeait. On n'avait plus du tout le même type de discours. Il devenait revendicatif. À plusieurs reprises, d'ailleurs, on nous dit « c'est un mot à la mode ». Et, je cite, « ce mot à la mode renvoie directement à des mesures incitatives et des sigles, comme le terme de paysage, d'ailleurs. Alors, les éleveurs évoquent des sigles. Alors, moi, je suis très nul dans les sigles, mais « OLAE », PHAE, CTE, CAD, PESMA, etc. etc. Ces éleveurs savent fort bien que qui dit biodiversité dit mesure en gris environnementale, Natura 2000, contrat et primes et cahier des charges. Comme le disent crûment deux d'entre eux, la biodiversité, c'est de la paperasse. Il y en a même un des deux qui m'a dit oh mon pauvre monsieur, c'est de la paperasse la biodiversité. Voyez ça avec ma femme, celle qui s'occupe de ça. Pour tous, le discours est ensuite manifestement destiné à adresser un message à qui de droit, c'est-à-dire à ceux qui sont impliqués dans les mesures favorables à la biodiversité. Et il devient soit revendicatif, soit justificatif. Certains mettent en avant une certaine exaspération envers ces nouveaux objectifs auxquels les citadins aspirent et les contraintes que les écolos viennent leur proposer, moyennant des compensations qui sont bien évidemment toujours insuffisantes. Je cite, « La biodiversité, c'est une aspiration de citadins à trouver le paradis dès qu'ils sortent de la ville. » Or, nouvelle citation, « on n'a pas besoin de citadins pour nous dire ce qu'on pense. » Et la biodiversité, troisième citation, était là bien avant que les militants de la FRAPNA, la FRAPNA c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, qui est assez puissante, hein, beaucoup plus puissante que dans d'autres régions, ne s'en soient rendus compte. Ce qui s'exprime alors, c'est la crainte de contraintes supplémentaires, d'une perte d'autonomie. L'idée que les éleveurs de montagne n'ont pas besoin des conseils des protecteurs de la nature pour travailler et qu'il leur faut surtout pas, dernière citation, de garde-chiourme. Mais le discours le plus fréquent est justificatif. La majorité des éleveurs disent alors que s'il y a une biodiversité intéressante dans leur parcelle, c'est qu'ils ont jusqu'alors bien travaillé. L'idée que, citation, nos pratiques la préservent, ces protecteurs de la nature, que les adeptes du discours revendicatif prétendent redouter, sont là, au contraire, pris à témoin, et viennent à point légitimer les bonnes pratiques des éleveurs de montagne. Citation, ici, on fait ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, la FRAPNA l'a reconnu, il y a de la biodiversité. De fait, on signale alors que les protecteurs seraient peut-être bien inspirés de se préoccuper de la biodiversité dans les plaines où on fait de la monoculture, plus de celles qu'ils ont eux-mêmes préservées, et qu'on leur fiche un peu la paix. On peut imaginer aisément que ces éleveurs ne sont guère motivés pour entamer des négociations sur ce sujet avec ceux qui se donnent pour mission de gérer la biodiversité. Sur les espèces et les milieux, ces éleveurs n'ont pas non plus les mêmes connaissances et la même perception que celle des militants de la protection de la nature. De par leur vie quotidienne, ils ont rapport à une nature ordinaire, plus ou moins favorable à leurs activités, plus ou moins agréable à côtoyer, alors que les protecteurs s'intéressent plus volontiers à une nature remarquable, indépendamment de son utilité et de toute façon indépendamment de son utilité et de ses inconvénients. Très prolixes sur la flore des prairies et des alpages, sur les plantes qu'ils aiment avoir sur leur parcelle, celles qu'ils redoutent, parce qu'ils posent sur ces espaces le regard de l'appétit de leurs animaux, et mettent en rapport la diversité de la flore et la qualité des fromages, très versés au sujet des plantes de cueillette et des champignons, ils considèrent manifestement cette biodiversité comme un atout. Hostile à un enfrichement consécutif à la déprise, ils rejoignent sans doute sur la question de la fermeture des milieux, les protecteurs et les gestionnaires de la biodiversité. Mais ils ne peuvent concevoir que certains protecteurs se félicitent que la nature reprenne ainsi ses droits. C'est surtout au sujet de la faune que leur appréciation diverge de celle des protecteurs et des gestionnaires. N'étant plus chasseurs, ils ont sur la faune un regard professionnel, agricolo-centré, comme on pourrait-on dire. Tout dépend des interactions entre cette faune sauvage et leur travail. On reproche aux sangliers de saccager les prairies, aux ongulés sauvages, cerfs, chevreuils, un peu moins aux chamois et bouquetins parce que c'était des animaux de montagne, on les connaît depuis longtemps, on les aime bien. On redoute le loup, surtout lorsque l'on a des moutons. Cette appréciation professionnelle est néanmoins nuancée par une sensibilité esthétique à certains animaux, non seulement les oiseaux, mais aussi quelques bêtes nuisibles comme les renards ou gênantes comme les ongulés sauvages. C'est quand même beau à voir. S'il y a une biodiversité qui leur est favorable, une autre qui suscite leur intérêt, satisfait leur goût du beau ou stimule leur curiosité, il y avait même parmi ces éleveurs un botaniste amateur et un autre assez versé en fait dans l'observation des oiseaux, il en connaissait beaucoup plus que mes collègues, et que moi, a fortiori. Il y a aussi une diversité biologique dont ils ne saisissent pas d'emblée l'intérêt, ou qu'ils considèrent comme une contrainte, voire comme une nuisance. Cette faune est ainsi un sujet de conflit avec ceux qui entendent la protéger. Donc, il y a convergence possible, mais on voit qu'il y a encore des sujets de conflit, des sujets qui fâchent, hein, et il faut discuter des choses qui fâchent. Alors, discuter des choses qui fâchent, et là je vais bientôt m'arrêter, hein, j'ai combien, 5 minutes encore, est d'autant plus délicat, fait qu'il est d'autant plus délicat de s'entendre que les causes de conflit ne tiennent pas uniquement à des intérêts divergents, mais aussi à des visions du monde difficiles à concilier.